two, three, four. John Cleese et Robert Wyatt sur Philippe.
J'ai découvert la musique de Robert Wyatt quand j'avais 18 ans, donc c'était déjà tard, quand j'avais entendu The Soft Machine pour la première fois. Parce qu'avant ça, j'étais provincial, j'arrive à Cambridge pour les études et voilà, je vois l'ouverture à plein de choses. Et on m'a fait écouter The Soft Machine. Et j'étais amoureux de ça depuis, et je le suis toujours. J'ai découvert Robert là et je suis allé le voir en 68, 69, à the LSE, the London School of Economics, quand ils étaient quartet avec Elton Dean.
Je crois que j'ai reçu une lettre de Fred Frith qui a dit que peut-être notre groupe peut t'intéresser et peut-être on peut travailler ensemble. Alors j'ai écouté, il avait raison. Et enfin, il trouvait le merveilleux Chris Batteur, mais j'avais des grandes difficultés au Soft Machine parce que j'avais le sens que ça deviendra un jazz rock group très typique qui ne m'intéressait pas du tout. On n'était pas confortable là, moi. Et il n'était pas confortable avec moi aussi parce que je bois trop et c'est très ennuyeux. Quelqu'un d'un impossible, intolerable, and I accept it, j'accepte. So, and so I had to look for other things, and so there was a possibility, every possibility, oui, de jouer avec Henri Vache, oui. Mais ça ne passait pas. Mais enfin, oui, le dernier concert que j'ai fait de ma vie était avec Henri, Henri Carr. En Italie, Place Navona. Et nous ne savions pas que c'était un concert pour legalisation de drogue, de marijuana.
Tac, tic-tac, tac-tac.
Dica, signorina.
Et on a joué ensemble. Mais c'était très difficile pour moi, physiquement, avec ma chaise, là au soleil, toute la journée. J'étais très fatigué. Le concert était merveilleux, j'aimais ça beaucoup. Je crois autre chose avec vous aussi. Je crois un ou deux, peut-être.
On a fait trois. On l'a fait à Londres, à Paris, le théâtre des Champs-Élysées, et le troisième à Piazza Navona.
Oui, ça c'était merveilleux. Mais j'ai aussi décidé que c'est pas pratique pour moi de continuer à faire choses en concert. Les problèmes pratiques sont trop difficiles. Voyager, transport, tout le monde dit oui, à notre hôtel c'est possible, mais la plupart du temps c'est pas. Alors j'arrivais très tard, mais j'arrivais à des idées de chansons que je pourrais faire toute seule, mais ajoutant des amis pour des moments.
Can I ask you a question about that? Après l'accident, avec toutes les difficultés, ça paraît vraiment un moment clé, justement, tu as changé, tu as trouvé le Robert Wyatt auteur, which became rock bottom, which is the subject, ce qui est le sujet de notre petite interview.
Plus que ça, c'est au revoir à la batterie. Parce que pour moi, mon travail était batteur. J'aimais ça beaucoup, très intéressant. J'étais très content de jouer la batterie. Et puis, quelquefois, sometimes, a few times, j'ai ajouté une chanson ou quelque chose, autre chose, mais no pressure, pas de pression de faire ça. Sans la batterie, c'est un instrument intrinsèquement. Toujours, quand on ne sait pas les mots, c'est exactement le même. Intrinsèquement, un instrument social, quand on joue avec les autres. J'y suis très content que j'ai commencé avec la batterie parce que j'ai commencé à jouer pour les gens qui dansaient. Et c'est pas question de ego parce que c'est comme être un chef au restaurant Il y a son ego, son style, mais il faut que quelqu'un veuille manger ou ça ne veut rien dire. Et c'est la même chose, jouer pour les danseurs, c'est un service d'abord. Et si on le fait d'une manière idiosyncratique, idiosyncratique, ça va, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est jouer pour les danseurs. Et je n'ai jamais perdu ça. Alors, lorsqu'on croit que je cherche le plus far out, c'est pas vraiment ça. Oui, je cherche des méthodes différentes de trouver la musique. Improviser, par exemple, on trouve des choses qu'on ne pouvait pas trouver another way. But ce n'était jamais une idéologie, aidez-moi, ou oui, de nouveauté, d'avant-garde, non, rien de ça. Seulement chercher. J'aime beaucoup ce qu'a dit Charlie Parker. On parlait de lui comme innovateur et tout ça. And il a dit, oh, I'm just trying to find the prettiest notes. I thought that was so charming. You know, how modest can you be? But in a way, if you listen to why Charlie Parker tunes work, it's not just breaking up chords or unusual intervals. You can break it down. It's just hundreds of beautiful little tunes played very fast. Actually, you know, on peut danser un peu. Il faut qu'il y ait là-dedans des chansons, même si c'est pas on the surface or surface. Il faut, c'est des choses très primitives. Et c'est tout. Originalement, je suppose, je cherchais dans le jazz comme beaucoup de gens. C'est la musique de ma jeunesse dans les années 50. C'était incandescent, period incandescent, from the hard bop to Ornette and everybody. Extraordinary period. And ça restait avec moi. Mais lorsque j'écoutais le jazz, j'avais aucune idée de jouer parce que pour moi, la musicien était des magiciens. Je ne comprenais pas comment ça se fait. J'écoutais. C'était seulement quand tu arrivais, pour nous les Anglais, à beat group. Et ça, c'est assez simple pour nous. Ah, ça, je peux faire. You know, all this. I can do that. Way, you know. And so, with great joy, we played beat music for dancers, but I had no sense of that we were part of what was happening in music. Mais maintenant que cette musique doit un aspect sociologique presque plus important un aspect musique.
Alors, dans tout ça, il y a David Allen qui arrive dans ta vie, si il me semble, qui a bousculé encore plus l'ambivalence entre le jazz et le beat music. Et tu as ce personnage extraterrestre qui arrive.
Alors. Oui, j'ai rencontré David quand j'étais teenager. Le mot rock n'existait pas. Il y avait de pop music, commencement de beat music. Mais pour moi, il était un exemple de beatnik, pour moi. C'était ça, la romance de notre jeunesse, les beatniks. Il n'était pas du tout intéressé d'avoir de succès, d'argent, tout ça. Il avait l'idée qu'il y a des squares, des hip et des squares. Et les squares pensaient tout le temps de ses carrières et tout ça. Mais un beatnik s'en fout de tout ça. C'était très romantique pour nous. David est arrivé avec ça. Il était aussi australien. C'est quelque chose de bien différent qu'un américain. Avec une innocent vulgarité et charme bien différent que les américains. Parce que les beatniks, c'était très, un peu sarcastique, cynique attitude. Il n'était pas du tout comme ça. Il était très ouvert. Il jouait de la guitare et il jouait de free jazz. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il a fait. Il voulait aussi jouer de blues. Et, alors, il y avait un harmonium d'une église. Après, quatre cordes pour un blues, jouer, continuer pour qu'il pouvait ajouter sa guitare. Et c'était comme ça, j'ai ajouté un keyboard, piano, basis of... So that was that. Il était très amusant tout pour nous. Par exemple, il était chez nous, une maison près de Douvres, 4 miles de Douvres. Et très grande, c'était dilapidated.
Dilapidé.
Yeah, yeah. Bingo. Mais mes parents, pour d'argent, il y avait des lodges. Parce que mon père ne pouvait pas travailler, il avait une musculosclérosis. Et ma mère était journaliste, mais n'a pas assez d'argent. Alors, il y avait des gens qui vivaient there, oui, pour quelques mois ou un an. Puis, un petit village, on était très conservatif. Il y avait un pet. Comment ça se dit, un pet?
Un animal domestique.
Un animal domestique. Et son pet était un tin can on a string. And he wear this along with it. This tin can following along behind, bumpity bump, ding, ding, bunk, ding, bunk, ding, bunk, down. And it was David taking his pet tin can for a walk. And this was, I think, a very, very good thing. And we thought this is an excellent move. Puzzled the villagers, it didn't threaten them. He didn't want to disturb people. He wasn't a sadist. You know, he didn't want to hurt normal straight people. He had complete respect. As long as he was allowed to take his pet around the village, he was fine. So that was David. Good influence, I think. J'aime beaucoup quand quelqu'un autre joue mes chansons. Parce que même que j'ai fait les enregistrements, c'est seulement l'original, c'est ce que je peux faire avec cette chanson. Mais il y a d'autres choses, je suis assez limité. Quelquefois, je me dis, I'm going to make something completely different. Alors, je enregistre ça, et je me dis, fuck, it's just another fucking Robert Wyatt record. So, j'aime le son. C'est OK, mais si quelqu'un d'autre prend une de ces chansons, revitalise, I love it. C'est un peu, I would say grandchildren, des petits-enfants, parce que ce qui font très indépendant, quelqu'un d'autre, étranger, mais ils existent en part parce que tu étais là. Et it's magic. Un morceau de ce qui fait quelqu'un autre, qui est complètement différent. J'aime ça beaucoup. C'est très similaire, l'émotion de ça. Et si c'est John Greaves, on se connaît très bien. On a joué ensemble, on se connaît, et j'ai toute confiance en... Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais de Gil Evans et tout ça. Mais avec cet orchestre, c'était un rêve pour moi. Moi, musique, dans un contexte d'une telle orchestre de jazz. Pour moi, c'était absolument magique. Alors, je veux ici, maintenant, dire merci beaucoup, messieurs et dames. And I'm very grateful. Comment ça se dit, grateful?
Reconnaissant. Je suppose que c'est le moment de parler de Q-Roll aussi, dont tu étais toujours assez fan.
Oui, oui.
Parce qu'on a cité le nom de Peter Blegved, donc il faut quand même parler un peu de Peter, qui est quand même un grand, il est très grand en fait. c'est un grand un parolier, un poète.
Peter Blegved est incroyable, c'est ce qu'il fait avec les mots. Et aussi, il sait dessin, mais his command of the language is supreme, I mean, it's extraordinary. And so with John's music, there's some fucking difficult things in there. I mean, that da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da, you know, the little bits of anticipation, because even the best jazz musicians, even playing in 4/4, they do that all the time. I mean, in fact, the most far out time signature person is someone like Thelonious Monk, just kind of displacing where you would put a note and so on. So it's good fun learning that and kind of locking in something. And I like the fact that it's there is an essential discipline there, you know. You can't busk it. You have to get it right, and it's good for me to have to get something right. It's not always enough to say, oh, I was just expressing myself, meaning I didn't know how to do it. That's not good enough. You know? So
still getting away with it.
Yeah, that's
after
right.
All these years.
C'est difficile de parler de musique et comment ça marche. C'est pour ça que musicien et pas écrivain. Mais alors, je crois que c'est musique ouverte et c'est pas locked in.
Enfermé, clos.
Yeah, dans ma tête, c'est ça quand j'écris quelque chose. Et si ça marche, c'est parce que ça, c'est quelque chose de vivant dans ma tête. Un animal, quelque chose qui n'existait pas, mais qui existe maintenant. Comme il y a partout, petits animaux. Sinon, un animal organique, comme les plantes. Et que le problème avec ça, c'est que comment reproduire et parler de la musique et étudier, il y a beaucoup d'arithmétique, mathématiques. You know, the intervals, les rythmes, c'est écrit avec des maths. C'est pas possible avec ça. A, B, C, D, E, F, comment ça? Minor, major, it's the scales, it's mathematics, it's a semitone, no, whole tone, semitone, all these things. And I became a music for a thing, as a teenager, although I listened to jazz, but what I wanted to be was a painter. And I used to, my role models were the kind of usual suspect, but they were from the first half of the 20th century, and then people like the Futurists, and then Yves Tanguy and Chaim Soutine, fantastic, and so on, Max Ernst. The freedom of painting, you know, that was my problem with music, that it was so mathematical, and I wanted to just make a kind of music that flowed just a bit more naturally, like plants. Leaves flow, you know. I know that you can break down all plants into mathematical formulae. I know this, but the effect of living things is not mathematical. It's not machines. It's quite, when we make machines, they're made of mathematics. And what we are is not, superficially anyway, mathematics. And it's that transition from the machinery of making music to something living. And it sounds very pretentious to say it. This is why artists should shut up. But then I'm too polite not to answer questions, so I'm answering it. But that actually is what's going on in my head. I'm trying to make something a living thing, or something approximate a living thing, out of machines.
Want to try one more?
One, two, three, four, one, two. J'aimais beaucoup Buddy Holly et tout ça. Et maintenant, j'écoute... tout le monde dit, oh, Justin Bieber, he's crap. And I say, no, he's quite good, you know. If you horrify people, you can't horrify people by saying you're an atheist. You can't horrify people by saying you don't like Mozart. But if you say Justin Bieber's all right, people are really shocked, you know. I can't see the problem. You know, he's a good entertainer, he's doing his job. I sometimes wish that when I was young and had a lobotomy and not had been impregnated with grand ideas, I would still have been a happy pop singer, you know. It is a kind of folk music, but it's not self-consciously so. It's mistrusted because it's the industry is disgusting. But then I remember once when I was first in hospital, there was a boy next to me who'd broken his back, and it was worse than me because if you break your back on a boy before your bones have grown, then you're not going to grow, right? And he was totally traumatized by it. And all he listened to in his headphones was country music. Well, I'd thought of country music as the nadir of music, you know. But for him, it was very serious music. And I thought, we've got to reevaluate words like serious, you know, what they actually mean in real life. I thought this again later when I remember watching a video, amateur video, of a hen party, which is girls go out together and get drunk and just muck around, just having a, you know, I don't know if equivalent in France, but it's a hen party. Sometimes just before a marriage, a girl will have a hen party and the man will have a stag night with his friends and he'll get drunk and so on. But anyway, hen parties, and they would end up certain with these women singing I Will Survive by Gloria Gaynor, very loud, all together, stamping their feet. And I thought, that's serious. That's very, very, you can't get more serious than that. It's a bunch of women who don't, not interested in art, music, they're just people who work, they have jobs, and they get together for an emotional, social occasion of really great importance, but not done with pomp, ceremony, but of joy and abandon. And that's what they're singing. And I thought, that's probably the most important thing the music is for, still. And
I must intervene, though, that I spent my teenage years playing dance music with my father's band.
Right.
And watching people doing the equivalent of what you're saying, but singing all these women drunk, probably including my mother, singing Leap Up and Down and Wave Your Knickers in the Air.
Fantastic. I think it's, that's exactly what I'm talking about.
Hasn't quite right? got the same yeah. same kudos.
That's a wonderful background to have, John. No wonder yeah. you're such a but, you know, knowledgeable musician.
I Will Survive, but I don't think they got as far as that.
Well,
But it is that. Of course it is. It's that's
music.
Pop music.
And I think
people sing what they want to sing.
Yeah.
Absolutely.
I think that music fans have more difficulty with this than musicians do. You know, I remember people used to say some folk music is repetitive. Of course it is. You know, like people are working a lot and they're just playing music at weekends after they're going to learn to play a tune or two or something on the fiddle. It's going to be repetitive. But it has an organic shape through an evening, for example, what order things are played in, and becomes very organic. It's very plastic. I think people who make music, we know that. That's really, know that. And I'm very distanced from people who think, you know, well of course what we like is far superior to what normal people understand, and that kind of self-congratulatory. I'm very uncomfortable with that, you know. I'm lucky that I can do what I do and make a living out of it, even though it's not that, it's just a kind of a branch somewhere, reaching somewhere odd that kind of works for me. And we all come out of that, though. That's what I think.
That thing about you know, qualitative bullshit. It's just full of this kind of yeah. pompous, kind of self-righteous nonsense.
Well, it's the sort of stage you have to go through, I think. I think that it can be a bit like religion, where it only works if you think it's incredibly important. If you don't, then you can't do it. It's like, maybe there's a certain stage of adolescence where these things you believe are astonishingly important, where life or death. And I do know the feeling. I mean, I do. Sometimes I have to, even when I'm writing, I have to delude myself in a way, because I will feel sick for days and days if I can't find the right. If I've got a bunch of notes and I just can't find a way to resolve them or to get gracefully to produce a thing. And I feel ill. It becomes a matter of life or death to me, writing a song. Or if I think, you know, the road test, the wind tunnel test, when you make a new vehicle, you have to test it in a wind tunnel, see if it breaks. And the wind tunnel test of writing music is, of course, playing it over and over again. And gradually, if you do that long enough, one chord comes along, and it's so boring. You think, I can't live with that chord. That is such a boring chord. And I hate it so much, and I just can't think what else to put there. And this happened to me most recently when I was trying to do a song called Forest, which is lyrics by Alfie.
Which we sing in the
Well, it's fantastic words by Alfie.
Yeah,
and
we sing it with Annie. And
yeah, I mean, it was the thing that she came out, being from Central Europe, and an awful lot of people, gypsies now, they were killed. I mean, it was disastrous for them, and her brought up with this horror of these, anyway, of that kind of thing. But it's a beautiful song. It's almost this fear of the forest, but, you know, the magnificence of it. I don't know, all that stuff. In fact, on the record, David Gilmour came along, did some guitar, perfect slidey stuff with backward echo and so on. And then there's one point, what is it? Yeah, at the end of one of those little lines. What's that last chord? And I said, Dave, I don't know. I don't know what it is. And he said, oh. And I just got through it but really Dave got through it. He just played, well, I'm going to do this, you know, like that. And I thought, yeah, I'll go with that. And so sometimes, thank goodness for other people, you know, who just dig me out of a hole. I wasn't going to not do it because of this call, but I really did lose a lot of sleep over that. It suddenly went static there. I always want things to keep flowing. And that's what I liked about jazz chord sequences. They're very the popular songs written by the great songwriters George Gershwin, Irving Berlin, and all those people, was that it was getting from one chord to another with a sort of fluidity, you know. So there's quite a lot of chords related, notes related from one chord to another, but there'll be a shift which will mean you have to, everything's slightly different and so on. And I take myself terribly seriously when I'm actually working, even though if I look at it objectively, I think it really doesn't matter very much. Robert, about 60,000 Africans have just stranded in the Mediterranean. It really doesn't matter with your chord. Well, actually, no, things like that were happening all around the world, you know. But I have to tell myself, no, no, it really, really matters, because it's the only thing I can do. Well, Daniel Schulzke, je fais cette peur. Il n'y avait pas de parole. C'est seulement la musique. Et je ne pouvais pas continuer. Alors j'ai fini sans finir. Jean Harpe, le peintre Jean Harpe, a dit, je finis jamais, mais je stoppe. un moment sans, hein, les peintures, c'est stop, I'm not doing any more of this. And so, what would it have been about? I mean, I don't start with about, start with just, to me, singing is first of all about making a noise with the mouth. Dans un sens, la voix est très limitée. Comparaison piano, violon, tout ça. Mais la voix, il y a quelque chose d'unique. C'est qu'il y a des consonants et c'est pour ça, par exemple, que j'aimais beaucoup Duke Ellington parce que ces musiciens, ils jouent comme des voix. Tout ça. Incroyable. La musique classique ne fait pas ça. Même Stravinsky n'avait pas fait ça. Nous, et c'était une grande. Pour moi, le plus grand cadeau pour tous les musiciens après du Carlton, c'était ça.
Ah, je vous aime à la folie.
Alors, la voix, c'est pas important. Récemment, on nous a demandé, moi et Alfie, de faire compilation de nos paroles pour un livre. Et on l'a fait. Mais c'était intéressant, difficile. Mais pour moi, le problème avec ça est seulement que peut-être un des meilleurs livres de chansons. Il y a seulement deux ou trois pages là-dedans parce que c'est James Brown. I feel good, I knew I would. I feel good. So good, so good, so good, so good. All these kind of things. Just naming the songs in. Do the monkey, do the sound. They're just perfect lyrics because they're perfect things to do with the mouth, you know. I feel good. I knew that I would. And Miles Davis said, yeah, I'm going to do it. 1, 2, 3, 4. You know. So that was a nice thing. Just to do that.